Chapitre 19. Chute d'étoiles. Il détient le plus effrayant et le plus terrible de tous les éclats. Réfléchissez-y quelque temps, vieux reptile, et dites-moi si votre insistance à ne pas intervenir tient toujours. Car je vous assure que Raizé n'aura pas de telles inhibitions. Dalinar cligna des yeux. La baraque étouffante et à peine éclairée avait disparu. À la place, il se tenait debout dans le noir. L'air était chargé d'une forte odeur de graines séchées, et lorsqu'il tendit sa main gauche, il toucha un mur de bois. Il se trouvait dans une sorte de grange. La nuit était calme et fraîche, aucun signe d'orage. Il tâtonna prudemment à son côté. Son épée avait disparu, tout comme son uniforme. Il portait à la place une tunique faite maison dotée d'une ceinture, ainsi qu'une paire de sandales. C'était le type de vêtements qu'il avait vu représenter sur d'anciennes statues. Bourrasque, où m'avez-vous envoyé cette fois-ci? Chaque vision était différente. Celle-ci devait être sa 12e. Seulement 12, songea-t-il. Il lui semblait en avoir eu tellement plus, mais elle n'avait débuté que quelques mois plus tôt. Quelque chose remua dans le noir. Il tressaillit de surprise lorsqu'une créature vivante se pressa contre lui. Il faillit la frapper, mais s'immobilisa lorsqu'il l'entendit geindre. Il baissa prudemment le bras et toucha le dos de la créature. Petite et menue, une enfant. Elle frissonnait.
« Papa !»
Sa voix tremblait.
« Papa, qu'est-ce qui se passe ?»
Comme toujours, les autres le voyaient sous les traits de quelqu'un qui appartenait à cette époque et à ce lieu. La fillette s'agrippa à lui, visiblement terrifiée. Il faisait trop sombre pour distinguer les sprènes de peur qui devaient jaillir à travers le sol. Dalinar posa la main sur le dos de la fillette.
« Chut ! Tout ira bien. »
Ça semblait la chose à dire.
« Maman !»«
Tout ira bien pour elle. »
La fillette se pelotonna plus près de lui dans la pièce obscure. Il demeura immobile. Quelque chose n'allait pas. Le bâtiment grinçait au vent. Il n'était pas solidement bâti. La planche que touchait Dalinar était mal fixée, et il fut tenté de la déloger pour regarder à l'extérieur. Mais ce calme, cet enfant terrifié... Il y avait dans l'air une odeur curieusement putride. Un grattement s'éleva, très doucement, depuis le mur du fond de la grange, comme si l'on promenait un ongle sur un dessus de table en bois. La fillette gémit, et le grattement cessa. Dalinar retint son souffle, le cœur battant furieusement. Par réflexe, il tendit la main pour invoquer sa lame d'éclat, mais rien ne se produisit. Elle n'apparaissait jamais lors des visions. Le mur du fond de la grange explosa vers l'intérieur. Des éclats de bois volèrent à travers les ténèbres, tandis qu'une silhouette massive jaillissait à l'intérieur. Éclairée par la seule lumière de la lune et des étoiles, la créature noire était plus grosse qu'un hedgehog. Dalinar ne distinguait pas les détails, mais sa forme donnait une impression de profonde anomalie. La fillette hurla, et Dalinar jura, la saisit par un bras et roula sur le côté alors que la créature noire bondissait vers eux. Elle faillit atteindre l'enfant, mais Dalinar l'arracha du trajet de la créature. Le souffle coupé par la terreur, elle cessa de hurler. Dalinar pivota, repoussa la fillette derrière lui. Son flanc heurta une pile de sacs remplis de graines alors qu'il s'éloignait. Le silence retomba dans la grange. La lumière violette de Salas brillait dans le ciel. Mais la petite lune ne suffisait pas à éclairer l'intérieur de la grange. Et la créature s'était réfugiée dans un renfoncement obscur. Il n'en distinguait pas grand-chose. Elle semblait faire partie des ombres. Dalinar se crispa, poings en avant. Elle émettait un faible bruit sifflant, sinistre, qui rappelait vaguement un murmure rythmique.
« Sa respiration ?» se demanda Dalinar.
« Non, elle essaie de nous flairer. » La créature s'élança vers l'avant.
Dalinard tendit brusquement la main sur le côté et s'empara de l'un des sacs de graines, l'attirant devant lui. La bête s'attaqua au sac, le déchira de ses dents et Dalinard tira dessus, détruisant le tissu grossier et projetant dans les airs un nuage odorant de graines de la vie poussiéreuse. Puis, il s'écarta sur le côté et asséna un coup de pied à la bête de toutes ses forces. La créature lui parut trop flasque sous son pied, comme s'il avait frappé une outre. Le coup la projeta à terre et elle émit un bruit sifflant. Dalinard jeta en l'air le sac et son contenu restant, remplissant de nouveau l'air de la vie séchée et de poussière. La bête se releva tant bien que mal et se retourna, sa peau lisse reflétant le clair de lune. Elle semblait désorientée. Quoi qu'elle puisse être, elle chassait à l'odeur, et la poussière présente dans l'air la perturbait. Dalinard agrippa la fillette et la jeta sur son épaule, puis dépassa à toute allure la créature déboussolée, fonçant à travers le trou du mur brisé. Il jaillit au clair de lune violet. Il se trouvait dans un petit lette, une large crevasse dans la pierre munie d'un système d'écoulement assez bon pour éviter les inondations et d'un haut affleurement de pierre pour briser les tempêtes majeures. Dans ce cas précis, la formation rocheuse à l'est possédait la forme d'une énorme vague, créant un abri pour un petit village, ce qui expliquait la fragilité de cette grange. Des lumières vacillaient ici et là à travers la cuvette, indiquant la présence d'un campement de plusieurs dizaines de foyers. Il se trouvait à la périphérie. Il y avait un enclos à cochons sur la droite de Dalinard, des maisons lointaines sur sa gauche, et juste devant lui, niché contre la colline rocheuse, se trouvait une ferme de taille moyenne. Elle était bâtie dans un style archaïque, avec des murs en briques de Crémont. Sa décision fut facile à prendre. La créature se déplaçait vite, comme un prédateur. Puisque Dalinard ne pourrait la battre à la course, il chargea en direction de la ferme. Le bruit de la bête traversant le mur de la grange retentit derrière lui. Il atteignit la maison, mais la porte d'entrée était barrée. Il jura tout haut tout en la martelant. Dalinard entendit derrière lui un raclement de griffes contre la pierre lorsque la créature bondit vers eux. Il jeta son épaule contre la porte alors même qu'elle s'ouvrait. Il entra en titubant et laissa tomber la fillette sur le sol tandis qu'il retrouvait son équilibre. Une femme d'âge moyen se tenait à l'intérieur. Le clair de lune violet révélait qu'elle avait d'épais cheveux bouclés et une expression terrifiée qui lui écarquillait les yeux. Elle claqua la porte derrière lui, puis la barra.
« Les héros soient loués !» s'exclama-t-elle en soulevant la fillette. « Tu l'as retrouvée, Eb, sois béni !»
Dalinard se glissa jusqu'à la fenêtre sans vitre et regarda à l'extérieur. Le volet semblait cassé, ce qui empêchait de fermer la fenêtre. Il ne voyait pas la créature. Il regarda par-dessus son épaule. Le sol du bâtiment était fait de pierres simples et il n'y avait pas d'étage. Un foyer de briques sans feu était bâti d'un côté, avec une marmite de fer grossière suspendue au-dessus. Tout ici semblait si primitif. En quelle année se trouvait-il ? « Ce n'est qu'une vision, » se rappela-t-il, « un rêve éveillé. » Dans ce cas, pourquoi semblait-elle si réelle ? Il regarda de nouveau par la fenêtre. Tout était silencieux dehors. Deux rangées jumelles de boutons de roche poussaient du côté droit de la cour, sans doute des ravèches ou d'autres types de légumes. Le sol lisse reflétait le clair de lune. Où était la créature ? Avait-elle ? Quelque chose de noir à la peau luisante jaillit d'en bas et alla s'écraser contre la fenêtre. La créature brisa le châssis et Dalinard tomba en jurant lorsqu'elle atterrit sur lui. Quelque chose de tranchant lui entailla le visage, lui ouvrant la joue et faisant jaillir du sang. La fillette hurla de nouveau. « Lumière !» hurla Dalinard. « Donnez-moi de la lumière !» Il frappa d'un coup de poing la tête trop tendre de la créature et utilisa son autre bras pour chasser une patte griffue. Sa joue brûlait de douleur, et quelque chose lui ratissa le flanc, fendant sa tunique et entaillant sa peau. Avec un effort soudain, il repoussa la créature. Elle alla s'écraser contre le mur, et il se releva après une roulade, le souffle coupé. Tandis que la bête se redressait dans la pièce obscure, Dalinar s'éloigna d'un pas instable, ses vieux réflexes reprenant le dessus, et la douleur s'évapora, tandis que le frisson du combat montait en lui. Il avait besoin d'une arme, d'un tabouret ou d'un pied de table. La pièce était si... Une lumière vacillante apparut lorsque la femme découvrit une lampe en terre cuite allumée. Ce modèle primitif utilisait de l'huile plutôt que de la fulgiflamme, mais elle suffisait largement à éclairer son visage terrifié et la fillette qui s'accrochait à sa robe. La pièce possédait une table basse et deux tabourets, mais le regard de Dalinar fut attiré par le petit foyer. Il y vit alors, luisant comme une des lames d'honneur des anciennes légendes, un tisonnier de fer, très simple. Il était appuyé contre le foyer de pierre, la pointe blanche de cendre. Dalinar se précipita pour le saisir d'une main et le fit tournoyer pour en éprouver l'équilibre. Il avait été formé à la posture du vent classique, mais il lui préféra la posture de fumée, qui convenait mieux à une arme imparfaite. Un pied en avant, un en arrière, l'épée, ou dans ce cas précis le tisonnier, brandit avec la pointe dirigée vers le cœur de son adversaire. Seules des années d'entraînement lui permettaient de maintenir sa posture, alors qu'il voyait ce qu'il affrontait. La peau de la créature, lisse et noire comme la nuit, reflétait la lumière comme une flaque de goudron. Elle ne possédait pas d'yeux visibles, et ses dents noires, tranchantes comme des couteaux, hérissaient une tête posée sur un cou sinueux dépourvu d'os. Ses six pattes fines se pliaient sur les côtés et semblaient bien trop fragiles pour supporter le poids de son corps fluide et pareil à l'encre. « Ce n'est pas une vision, » songea Dalinar. « C'est un cauchemar. » La créature leva la tête, claqua des dents et émit un bruit sifflant. Elle goûtait l'air. « Sagesse de bâtard !» murmura la femme en tenant son enfant tout près d'elle. Ses mains tremblèrent lorsqu'elle leva sa lampe comme pour s'en servir d'arme. Un raclement leur parvint de l'extérieur, accompagné par une autre série de pattes grêles qui enjambaient furtivement le bord de la fenêtre cassée. Cette deuxième bête pénétra dans la pièce pour rejoindre sa compagne, qui se tenait accroupie, l'air inquiet, reniflant Dalinar. Elle semblait méfiante, comme si elle sentait qu'elle faisait face à un adversaire armé, ou du moins déterminé. Dalinar se traita d'idiot et leva la main vers son flanc pour étancher le sang. Il savait, d'un point de vue logique, qu'il se trouvait en réalité dans la baraque avec Reynarin. Tout ça ne se déroulait que dans sa tête. Il n'était pas nécessaire qu'il se batte. Mais tous ses réflexes, tout l'honneur qu'il portait en lui, le poussèrent à s'écarter sur le côté pour se placer entre la femme et les bêtes. Vision, souvenir ou illusion, il ne pouvait pas rester inactif. « Eb !» dit la femme d'une voix nerveuse. Qui voyait-elle à sa place? Son mari? Un ouvrier de la ferme?
« Ne fais pas l'idiot, tu ne sais pas comment... »
Les bêtes attaquèrent. Dalinar s'élança vers l'avant. Rester en mouvement était l'essence de la posture de fumée, et se mit à tournoyer entre les créatures, frappant sur le côté à l'aide de son tisonnier. Il atteignit celle de gauche, entaillant sa peau trop tendre. De la fumée s'échappa de la plaie. Dalinar alla se placer derrière les créatures et frappa de nouveau, portant un coup bas au pied de la créature indemne, qu'il déséquilibra. D'un même mouvement, il écrasa le côté du tisonnier contre le visage de la bête blessée lorsqu'elle se retourna pour tenter de le mordre. Le vieux frisson, l'instinct de la bataille, le consumait. Il ne déclenchait pas sa fureur, comme il le faisait chez certains hommes, mais tout semblait devenir plus net, plus clair. Ses muscles lui répondaient avec aisance. Il inspirait plus profondément. Il devenait vivant. Il bondit en arrière lorsque les créatures affluèrent vers lui. D'un coup de pied, il renversa la table vers l'une des bêtes. Il enfonça le tisonnier dans la gueule ouverte de l'autre. Comme il l'avait espéré, l'intérieur de sa bouche était sensible. La créature émit un sifflement de douleur et recula. Dalinar se retourna vers la table renversée et délogea l'un de ses pieds d'un coup de botte. Il la ramassa et adopta la forme de la posture de fumée destinée à l'épée et au couteau. Il utilisa le pied de table pour repousser la créature tandis qu'il frappait trois fois le visage de l'autre, ouvrant dans sa joue une entaille dont s'échappa de la fumée. Elle s'éleva en sifflant. Dehors, il entendit des hurlements lointains. « Sang de mes pères !» se dit-il. « Ces deux-là ne sont pas seuls. » Il devait en finir, et vite. Si le combat s'éternisait, elles allaient l'épuiser plus vite que lui ne les épuiserait. Qui savait seulement si ces bêtes-là se fatiguaient? Il s'élança en criant à plein poumon. La sueur lui coulait sur le front et la pièce sembla très légèrement s'assombrir, ou plutôt se préciser. Il n'y avait plus que les bêtes et lui. Le seul souffle était celui de ses armes en train de tournoyer, le seul bruit celui de ses pieds heurtant le sol, la seule vibration celle de son cœur en train de cogner. Son tourbillon soudain de coups stupéfia les créatures. Il écrasa le pied de table contre l'une d'entre elles, la forçant à reculer, puis se jeta sur l'autre, ce qui lui valut de se faire labourer le bras par ses griffes lorsqu'il enfonça le tisonnier dans la poitrine de la bête. La peau résista tout d'abord, mais se fendit ensuite, après quoi son tisonnier pénétra sans aucun mal. Un puissant jet de fumée jaillit autour de la main de Dalinar. Il dégagea son bras et la créature recula en titubant, ses pattes s'affinant à vue d'œil, son corps se dégonflant comme une outre en train de fuir. Il savait qu'il s'était exposé en attaquant. Il ne put rien faire d'autre que lever le bras quand l'autre bête lui sauta dessus, entaillant son front et son bras, mordant son épaule. Dalinar hurla, cognant encore et encore la tête de la créature à l'aide du pied de table. Il tenta de la forcer à reculer, mais elle était terriblement puissante. Dalinar se laissa donc glisser à terre et, d'un coup de pied vers le haut, rejeta la bête par-dessus sa tête. Les crocs s'extirpèrent de son épaule dans une gerbe de sang. La bête heurta le sol dans un fouillis de pattes noires. Pris de vertige, Dalinar s'obligea à se lever et adopta sa posture. Toujours garder sa posture. La créature se leva quasiment en même temps et Dalinar ignora la douleur, ignora le sang, laissa le frisson lui prêter résolution. Il leva son tisonnier. Le pied de table était tombé de ses doigts glissants de sang. La bête se tapit, puis chargea. Dalinar laissa la nature fluide de la posture de fumée le guider, s'écarta sur le côté et abattit le tisonnier contre les pattes de la bête. Elle trébucha lorsque Dalinar se retourna, maniant son tisonnier des deux mains pour le lui abattre en plein dans le dos. Le coup puissant fendit la peau, traversa le corps de la créature et heurta le sol de pierre. Elle se débattit, agitant furieusement les pattes, tandis que de la fumée jaillissait en sifflant des trous de son dos et de son ventre. Dalinar s'écarta, essuya le sang de son front, laissa l'arme tomber sur le côté et heurter le sol avec un bruit métallique, empalant toujours la bête.
« Nom des trois dieux, Eb !» murmura la femme.
Il se retourna pour la voir regarder les carcasses en train de se dégonfler, totalement stupéfaite.
« J'aurais dû t'aider, » marmonna-t-elle. « J'aurais dû m'emparer de quelque chose pour les frapper, mais tu allais si vite. Ça n'a duré que quelques battements de cœur. Où ? Comment ?»
Elle se concentra sur lui.
« Je n'ai jamais rien vu de pareil, Eb. Tu t'es battu comme l'un des radieux en personne. Où as-tu appris ça ?»
Dalinar ne répondit pas. Il retira sa chemise et grimaça lorsque la douleur de ses plaies se réveilla. Seule l'épaule posait un danger immédiat, mais assez grave. Son bras gauche commençait à s'engourdir. Il déchira la chemise en deux et en noua une moitié autour de son avant-bras gauche entaillé, puis fit de l'autre un tampon qu'il pressa contre son épaule. Il alla dégager le tisonnier du corps dégonflé, qui ressemblait à présent à un sac de soie noire. Puis il se dirigea vers la fenêtre. Les autres foyers semblaient avoir été attaqués, et des flammes d'incendie brûlaient, faibles hurlements portés par le vent. « Il faut nous réfugier en lieu sûr, » dit-il. « Y a-t-il une cave près d'ici ?»«
Une quoi ?»«
Une caverne dans la pierre,
de formation humaine ou naturelle.
Pas de cave, répondit la femme en le rejoignant à la fenêtre. Comment les hommes feraient-ils un trou dans la pierre?
À l'aide d'une lame d'éclat ou d'un spiricante, ou même à l'aide d'outils de mine, bien que ça puisse se révéler difficile. Car le Crémon scellait les cavernes et les pluies des tempêtes majeures posaient un risque d'inondation extrêmement puissant. Dalina regarda de nouveau par la fenêtre. De sombres silhouettes bougeaient au clair de lune. Certaines venaient dans leur direction. Il chancela, pris de vertige. Serrant les dents, il s'appuya au châssis de la fenêtre. Combien de temps cette vision allait-elle durer?
Il nous faut une rivière, quelque chose qui nous permette d'effacer la piste de notre odeur. Y en a-t-il une tout près?
La femme hocha la tête et blêmit lorsqu'elle remarqua les formes sombres dans la nuit.
« Madame, allez chercher la fillette. »«
La fillette? Silly, notre fille. Et depuis quand est-ce que tu m'appelles madame? Est-ce que Tafa est si difficile à prononcer? Bourrasque, Eb, qu'est-ce qui t'arrive? »
Il secoua la tête, se dirigea vers la porte et l'ouvrit à toute volée, tenant toujours le tisonnier.
« Apporte-moi la lampe. La lumière ne va pas nous trahir. Je ne crois pas qu'il soit capable de voir. »
La femme obéit et s'empressa d'aller chercher Silly, qui devait avoir dans les 6 ou 7 ans, puis suivit Dalinar à l'extérieur, tandis que la flamme fragile de la lampe d'argile tremblotait dans la nuit. Elle ressemblait un peu à un chausson.
« La rivière ?» demanda Dalinar.
« Tu sais bien où ?»
« Je me suis cogné la tête, Tafa, » dit Dalinar. « J'ai des vertiges, j'ai du mal à réfléchir. »
La femme prit un air inquiet, mais parut accepter cette réponse. Elle désigna un point à l'écart du village.
« Allons-y, » dit-il en sortant dans le noir.
« Est-il fréquent que ces bêtes attaquent ?»«
Pendant les désolations, peut-être, mais je n'ai jamais vu ça de ma vie. Eb, nom des tempêtes, il faut qu'on t'emmène. »«
Non, » la coupa-t-il, « continuons à avancer. »
Ils poursuivirent le long d'un chemin qui montait vers l'arrière de la formation en forme de vague. Dalinar jetait constamment des coups d'œil en arrière au village. Combien de personnes étaient en train de mourir en bas, massacrées par ces bêtes de la damnation? Où étaient les soldats du propriétaire de ces terres?
Peut-être ce village était-il trop isolé, trop loin de la protection directe d'un bourgmestre.
Ou peut-être les choses ne fonctionnaient-elles pas ainsi à cette époque, à cet endroit.
Je conduis la femme et l'enfant jusqu'à la rivière, puis je reviens organiser une résistance. S'il reste qui que ce soit.
Cette idée semblait ridicule. Il devait se servir du tisonnier pour rester debout. Comment comptait-il organiser une résistance?
Il glissa sur une partie du chemin en pente raide et Tafa reposa la lampe et lui prit le bras, inquiète.
Le paysage était hérissé de rochers et de boutons de roche qui tendaient leurs lianes et leurs feuilles dans la nuit humide et fraîche. Elles bruissaient au vent. Dalinar se redressa, puis adressa un signe de tête à la femme pour lui indiquer de continuer. Un faible raclement s'éleva dans la nuit. Dalinar se retourna, crispé.
« Eb ?» demanda la femme d'une voix effrayée.
« Lève ta lampe !»
Elle s'exécuta, éclairant le flanc de colline d'un jaune vacillant. Une bonne dizaine de flaques de nuit à la peau trop lisse rampaient par-dessus les rochers et boutons de roche. Même leurs griffes et leurs dents étaient noires.
Silly gémit et se serra contre sa mère.
« Cours !» dit Dalinar en levant son tisonnier.
« Eb, il court » hurla-t-il. « Il y en a aussi devant nous !»
Il se retourna et distingua les sombres taches devant eux. Il jura et regarda autour de lui.
« Là !» dit-il en désignant une formation rocheuse proche. Elle était haute et plate. Il poussa Tafa vers l'avant et elle entraîna Silly, leurs robes bleues ondulantes au vent. Elles coururent plus vite que lui ne le pouvait dans son état. Et Tafa atteignit le mur rocheux la première. Elle leva les yeux comme pour grimper au sommet. La pente était trop abrupte. Dalinar voulait simplement quelque chose de solide derrière lui. Il se plaça sur une section plate et ouverte de la roche devant la formation et leva son arme.
Les bêtes noires rampaient prudemment par-dessus les pierres. Pouvaient-ils, d'une manière ou d'une autre, détourner leur attention et laisser les deux autres prendre la fuite? La tête lui tournait affreusement. Je donnerais tellement pour avoir ma cuirasse. Si Lee geignait, sa mère tentait de la réconforter, mais sa voix était perturbée. Elle savait que ces masses de noirceur, telles la nuit vivante, allaient les tailler en pièces. Quel était ce mot qu'elle avait employé ? Désolation. Le livre en parlait. Les désolations s'étaient produites lors des jours obscurs, quasi mythiques, avant le début de l'histoire réelle, avant que l'humanité ne batte les néantifères et n'emporte la guerre au paradis. Les néantifères. Était-ce donc la nature de ces créatures ? Des mythes. Des mythes venus à la vie pour le tuer. Plusieurs des créatures s'élancèrent, et il sentit le frisson monter de nouveau en lui, le renforçant alors même qu'il frappait. Elles bondirent en arrière, prudemment, cherchant ses faiblesses. D'autres flairaient l'air tout en faisant les 100 pas. Elles voulaient la femme et la fillette. Dalinar se précipita vers les créatures, les obligeant à reculer, sans savoir où il trouvait la force. L'une d'entre elles approcha et lui porta un coup, adoptant la posture du vent, la plus familière. Avec ses coups amples, cette grâce, il frappa la bête et l'atteignit au flanc, mais deux autres lui sautèrent dessus depuis les côtés. Des griffes lui ratissèrent le dos et le poids des bêtes le projeta sur les pierres. Il jura, roula, rejeta une créature en arrière d'un coup de poing. Une autre lui mordit le poignet, ce qui lui fit lâcher le tisonnier sous l'effet de la douleur. Il hurla et abattit son poing contre la mâchoire de la créature qui s'ouvrit par réflexe, libérant sa main. Les monstres avançaient vers eux. Sans savoir comment, il parvint à se relever et recula en titubant contre la paroi rocheuse. La femme jeta la lampe vers une créature qui s'approchait trop, aspergeant les pierres d'huile qui s'enflamma. Le feu ne sembla pas gêner les créatures. La manœuvre exposa Silly, car Tafa perdit l'équilibre lors du lancer. Un monstre la terrassa, et d'autres voulurent s'approcher de l'enfant, mais Dalinar bondit vers elle, l'enveloppa de ses bras, se recroquevilla et tourna le dos au monstre. L'un d'eux lui sauta sur le dos, des griffes entaillèrent sa peau. Silly geignait de terreur. Tafa hurla lorsque les monstres la submergèrent. « Pourquoi me montrez-vous ça ? » hurla Dalinar dans la nuit. « Pourquoi faut-il que je vive cette vision-là ? Soyez maudits !» Des griffes lui ratissèrent le dos. Il serra Silly contre lui, le dos arqué de douleur. Il leva les yeux en direction du ciel, et là, il vit une lumière d'un bleu éclatant tomber à travers la nuit. Elle ressemblait à une météorite et chutait à une incroyable vitesse. Dalinar cria lorsque la lumière heurta le sol non loin de lui, fendant la pierre dans une gerbe d'éclats rocheux. Le sol trembla, les bêtes s'immobilisèrent. Dalinar se tourna sur le côté, engourdi, puis regarda, stupéfait, la lumière se lever, déployant ses membres. Ce n'était pas une étoile, c'était un homme en cuirasse d'éclats bleus luisantes, armé d'une lame d'éclat, avec des rayons de fulgiflammes se dégageant de son corps. Les créatures se jetèrent soudain sur la silhouette en sifflant furieusement, ignorant Dalinar et les deux autres. Le porte-éclat leva sa lame et porta un coup habile, s'interposant entre eux. Dalinar resta étendu, hébété. Ce porte-éclat ne ressemblait à aucun de ceux qu'il ait jamais vus. La cuirasse brillait d'une lumière bleue régulière, et des glyphes, certains familiers, d'autres non, étaient gravés dans le métal. Ils dégageaient une vapeur bleue. Avec des gestes fluides, l'homme frappait les bêtes dans un cliquetis de cuirasse. Avec une grande aisance, il trancha une bête en deux et rejeta dans la nuit les morceaux dont s'échappait une fumée noire. Dalinar se traîna jusqu'à Tafa. Elle était vivante, bien que son flanc soit déchiré et écorché. Silly pleurait en tirant sur sa robe. « Il faut faire
quelque chose,
se dit Dalinar, engourdi.
Soyez en paix, dit une voix.
Dalinar sursauta et se retourna pour voir une femme en cuirasse d'éclat délicate s'agenouiller près de lui, tenant quelque chose de brillant. C'était une topaze et un héliodore entremêlés, tous deux sertis dans une fine monture métallique, chaque pierre aussi grosse qu'une main d'homme. La femme avait des yeux marrons très clairs, qui semblaient presque briller dans la nuit, et elle ne portait pas de casque. Ses cheveux étaient rassemblés en chignon. Elle leva la main et toucha le front de Dalinar. Une vague glacée le submergea. Soudain, sa douleur s'évanouit. La femme tendit la main pour toucher Tafa. La chair de son bras repoussa en un clin d'œil. Le muscle déchiré ne bougea pas, mais de la chair neuve poussa, simplement là où des morceaux avaient été arrachés. La peau la recouvrit sans accroc, et la porte-éclat essuya le sang et la chair déchirée à l'aide d'un morceau de tissu blanc. Tafa leva les yeux, impressionnée.
« Vous êtes venu ?»
murmura-t-elle. « Le Tout-Puissant soit loué. » La porte-éclat se leva. Son armure luisait d'une lumière ambrée régulière. Elle sourit, se tourna vers le côté, et une lame d'éclat se forma dans sa main à partir de la brume, tandis qu'elle se précipitait pour aider son compagnon. « Une femme porte-éclat, » songea Dalinar. Il n'avait jamais rien vu de tel. Il se leva, hésitant. Il se sentait fort et en pleine forme, comme s'il venait de s'éveiller d'une bonne nuit de sommeil. Il baissa les yeux vers son bras, retirant son pansement improvisé. Il dut nettoyer le sang et la peau déchirée, mais en dessous, la peau était parfaitement guérie. Il prit plusieurs profondes inspirations, puis haussa les épaules, ramassa son tisonnier et se joignit au combat.
« Eb !» lui lança Tafa derrière lui. « Tu as perdu la tête !»
Il ne répondit pas. Il ne pouvait pas rester assis là tandis que deux étrangers se battaient pour le protéger. Il y avait des dizaines de ces créatures noires. Il en vit une frapper le porte-éclat en bleu d'une griffe qui raya la cuirasse, s'y enfonça et la fissura. Elle représentait un réel danger pour ces porte-éclats. La femme porte-éclat se tourna vers Dalinar. Elle était à présent coiffée de son casque. Quand l'avait-elle enfilé? Elle sembla stupéfaite lorsqu'elle vit Dalinar se jeter sur l'une des bêtes noires et l'entailler à l'aide de son tisonnier. Il adopta la posture de fumée et para sa contre-attaque. La porte-éclat se tourna vers son compagnon, puis tous deux adoptèrent une position triangulaire avec Dalinar, qui était placé le plus près de la formation rocheuse. Avec deux porte-éclats à ses côtés, le combat se déroulait sensiblement mieux que dans la maison. Il ne parvint qu'à abattre une seule bête. Elles étaient fortes et rapides, et il se battait en posture défensive, s'efforçant de détourner l'attention et de soulager la pression sur les porte-éclats. Les créatures ne se retirèrent pas. Elles continuèrent à attaquer jusqu'à ce que la dernière se fasse couper en deux par la femme porte-éclat. Dalinar s'arrêta, haletant, et baissa son tisonnier. D'autres lumières étaient tombées du ciel et tombaient toujours en direction du village. Sans doute d'autres de ces étranges porte-éclats venaient-ils d'atterrir.
« Eh bien, » déclara une voix forte, « je dois dire que je n'ai encore jamais eu le plaisir de me battre aux côtés d'un camarade armé de moyens si peu conventionnels. »
Dalinar se retourna pour voir le porte-éclat de sexe masculin, le toisé. Où était donc passé le casque de l'homme? Le porte-éclat se tenait avec la lame reposant sur son épaule et il étudiait Dalinar avec des yeux d'un bleu si clair qu'ils étaient presque blancs. Ses yeux brillaient-ils réellement, dégageant de la fulgiflamme? Sa peau était d'un brun foncé, comme celle d'un macabaki, et il avait de courts cheveux noirs bouclés. Son armure ne brillait plus, bien qu'un large symbole, gravé sur l'avant du plastron, dégage encore une faible lueur bleue. Dalinar reconnut le symbole, ce motif particulier avec le double œil stylisé, les huit sphères jointes avec deux autres au centre. Ça avait été le symbole des radieux enfuis, à l'époque où on les appelait les chevaliers radieux. La femme porte-éclat regarda le village.
Qui vous a appris à vous battre à l'épée ? Demanda l'homme chevalier.
Dalinar croisa son regard. Il ignorait comment répondre.
C'est mon mari, Eb, messire chevalier, dit Taffa en se précipitant, tenant sa fille par la main. Il n'a jamais vu d'épée, pour autant que je sache.
Vos postures me sont familières, dit le chevalier, mais elles étaient précises et expertes. Un tel niveau d'adresse ne s'acquiert qu'avec des années d'entraînement. J'ai rarement vu un homme, chevalier ou soldat, se battre aussi bien que vous venez de le faire.
Dalinar garda le silence.
Vous n'avez pas de mots pour moi, je vois, dit le chevalier. Très bien, mais si l'envie vous venait de rendre utile votre mystérieuse formation, venez à Ouritirou.
Ouritirou ? Répéta Dalinar. Il avait déjà entendu ce nom quelque part.
Oui, dit le chevalier. Je ne peux vous promettre une place dans l'un des ordres, cette décision ne m'appartient pas. Mais si votre habileté à l'épée égale votre habileté avec les outils domestiques, alors je ne doute pas que vous trouviez une place parmi nous.
Il se tourna vers l'est, en direction du village.
Faites circuler la nouvelle. Des signes comme celui-ci ne sont pas sans signification. Une désolation approche.
Il se tourna vers sa compagne.
Je vais m'en aller. Protège ces trois-là et conduis-les au village. On ne peut pas les laisser seuls avec les dangers de cette nuit.
Sa compagne hocha la tête. L'armure bleue du chevalier se mit à luire faiblement, puis il s'élança dans les airs, comme s'il tombait vers le haut. Dalinar recula en titubant, stupéfait, et regarda la silhouette bleue et luisante s'élever, puis redescendre en arc de cercle vers le village.
« Venez !»
dit la femme dont la voix résonnait à l'intérieur de son casque. Elle se mit à descendre la pente avec empressement.
« Attendez !»
lui lança Dalinar en se précipitant à sa suite, tandis que Taffa prenait sa fille dans ses bras pour le suivre. Derrière eux, l'huile commençait à s'éteindre. La femme chevalier ralentit pour permettre à Dalinar et à Taffa de suivre l'allure.
« Il faut que je sache une chose, » dit Dalinar, qui se sentit très bête. En quelle année sommes-nous ?
Elle se tourna vers lui. Son casque avait disparu. Il cligna des yeux. Quand était-ce arrivé ? Contrairement à son compagnon, elle avait la peau claire, non pas blême comme les gens de Shinovar, mais d'un brun clair naturel, comme les Alétis.
Nous sommes dans le 8e âge, en l'an 337.
8e âge ? Songea Dalinar. Qu'est-ce que ça signifie ? Cette vision était différente des autres. Pour commencer, les autres étaient plus brèves. Et la voix qui lui parlait, où était-elle ?
Où est-ce que je me trouve ? Demanda Dalinar à la femme chevalier. Dans quel royaume ?
La femme fronça les sourcils.
Vous n'êtes pas guéri ?
Je vais bien. Simplement, il faut que je sache. Quel est ce royaume ?
Natanatan.
Dalinar cessa de retenir son souffle. Natanatan. Les plaines brisées occupaient le territoire qui avait autrefois été Natanatan. Le royaume était tombé des siècles plus tôt.
Et vous vous battez pour le roi de Natanatan ?
Demanda-t-il. Elle éclata de rire.
Les chevaliers radieux ne se battent pour aucun roi, et pour tous les rois à la fois.
Dans ce cas, où vivez-vous ?
C'est à Ouritirou que nos ordres sont centralisés,
mais nous vivons dans des villes réparties à travers tout Alethela.
Dalinar se figea sur place. Alethela, ce nom historique de l'endroit qui était devenu Aletkar.
Vous traversez les frontières du royaume pour vous battre ?
Eb, intervint Taffa, qui semblait très inquiète. C'est toi qui m'as promis que les radieux viendraient nous protéger, juste avant que tu ne partes à la recherche de Sili. Est-ce que tu as encore l'esprit embrouillé ? Dame chevalier, pourriez-vous le guérir à nouveau ?
J'aurais dû économiser la régénération pour d'autres qui sont peut-être blessés, dit la femme avec un coup d'œil en direction du village. Les combats semblaient s'apaiser.
Je vais très bien, dit Dalinar. Allez-là, vous y vivez ?
C'est notre devoir et notre privilège, répondit la femme, de rester à l'affût de la désolation. Un royaume pour étudier les arts de la guerre afin que les autres puissent connaître la paix. Nous mourrons pour que vous puissiez vivre. Nous y avons toujours été chez nous.
Dalinar resta immobile, méditant ses informations.
Nous avons besoin de tous ceux qui savent se battre, dit la femme. Et tous ceux qui ont le désir de se battre devraient être obligés de venir à Alethela. Le combat, même ce combat contre les dits morts, transforme les gens. Nous pouvons vous instruire afin qu'ils ne vous détruisent pas. Venez vers nous.
Dalinar se surprit à acquiescer.
Chaque pré a besoin de 3 choses, dit la femme d'une voix transformée, comme si elle citait de mémoire. De troupeaux à élever, de gardiens pour s'en occuper, et de guetteurs aux frontières. Nous autres, ceux d'Alethela, nous sommes ces guetteurs, les guerriers qui se battent et protègent. Nous cultivons l'art terrible de la mort, puis le transmettons aux autres quand survient la désolation.
La désolation, dit-il. C'est-à-dire les néantifères, c'est bien ça? C'est eux que nous avons combattus cette nuit?
La femme chevalier renifla d'un air dédaigneux. Des néantifères, ceux-là?
Non.
C'étaient des essences de minuit, bien que l'identité de ceux qui les ont relâchés reste un mystère. Elle regarda sur le côté, l'expression soudain distante. Arcaïlaïn affirme que la désolation est proche, et il se trompe rarement. Un hurlement soudain résonna dans la nuit. La femme chevalier jura et regarda dans sa direction. « Attendez ici. Appelez-moi si les essences reviennent, je vous entendrai. » Elle s'éloigna précipitamment dans le noir. Dalinar leva la main, partagée entre l'envie de la suivre et celle de rester surveiller Tafa et sa fille. « Père des tempêtes, » se dit-il, comprenant qu'il se retrouvait dans les ténèbres à présent que l'armure luisante de la femme chevalier avait disparu. Il se retourna vers Tafa. Elle se tenait derrière lui sur le chemin, l'expression curieusement distraite. « Tafa ? » demanda-t-il.
« Cette époque me manque, » dit-elle.
Dalinar sursauta. Cette voix n'était pas la sienne. C'était une voix d'homme, grave et puissante. Celle qui lui parlait lors de chaque vision.
« Qui êtes-vous ? » demanda Dalinar.
« Autrefois, ils étaient unis, » déclara Tafa, ou qui qu'elle puisse être. « Les ordres, des hommes, pas dépourvus de problèmes ni de querelles, bien sûr, mais déterminés. » Un frisson parcourut Dalinar. Quelque chose dans cette voix lui semblait toujours vaguement familier. C'était déjà le cas lors de la première vision.
« Je vous en prie, vous devez m'expliquer ce qui se passe et pourquoi vous me montrez ces choses-là. Qui êtes-vous ? Un serviteur du Tout-Puissant ?
« J'aimerais pouvoir vous aider, » dit Tafa, regardant Dalinar mais ignorant ses questions.
« Vous devez les unir. » « Vous me l'avez déjà dit, mais j'ai besoin d'aide. Tout ce que la femme chevalier a dit au sujet d'Aletkar, est-ce que c'était vrai ? Pouvons-nous réellement retrouver ces choses-là ? »
« Parler de ce qui pourrait advenir est interdit, » répondit la voix. « Parler de ce qui fut est une question de perspective. » Mais je m'efforcerai de vous aider.
Dans ce cas, donnez-moi plus que de vagues réponses.
Tafa le mesura du regard, l'air grave. Curieusement, à la seule lueur des étoiles, il parvenait à distinguer ses yeux marrons. Quelque chose de profond, d'intimidant, se cachait tout au fond.
Dites-moi au moins une chose, insista Dalinar, cherchant une question précise à poser. « J'ai fait confiance au haut prince Sadeas, mais mon fils, Adoline, pense que c'est stupide de ma part.
Faut-il que je continue à lui faire confiance ?
Oui, répondit l'être. C'est important. Ne laissez pas les querelles vous consumer. Soyez fort. Agissez avec honneur, et l'honneur vous aidera.
Enfin, songea Dalinar, quelque chose de concret. Il entendait des voix. Autour de Dalinar, le paysage obscur se fit plus vague.
Non, il tendit la main vers la femme, ne me renvoyez pas encore. Que dois-je faire pour Elokar et pour la guerre?
Je vous donnerai ce que je peux. La voix devenait de plus en plus indistincte. Je regrette de ne pas pouvoir vous donner davantage.
Quel genre de réponse est cela ? Hurla Dalinar. Il se secoua, se débattit. Des mains le retenaient. D'où était-elle venue ? Il jura, les repoussa, se tortilla, cherchant à se libérer. Puis, il s'immobilisa.
Il se trouvait dans la baraque des plaines brisées. Et la pluie tombait doucement sur le sol. Le gros de l'orage était passé. Un groupe de soldats le maintenait en place tandis que Rénarin l'observait d'un air inquiet. Dalinar se calma, bouche ouverte. Il avait été en train de hurler. Les soldats semblaient mal à l'aise et échangeaient des regards sans croiser le sien. Si tout s'était déroulé comme précédemment, il avait dû agir comme il le faisait dans la vision, tenir des propos sans queue ni tête, battre l'air de ses bras.
« Je suis lucide à présent, » déclara-t-il.
« Tout va bien. Vous pouvez tous me relâcher. » Rénarine adressa un signe de tête aux autres qui le libérèrent à contre-cœur. Rénarine tenta de formuler des excuses en bégayant pour leur dire que son père était simplement impatient de partir au combat. Il n'était guère convaincant. Dalinar se retira au fond de la baraque et s'assit sur le sol entre deux tapis de sol roulés, où il se mit simplement à réfléchir tout en inspirant et expirant. Il se fiait à ses visions. Mais sa vie dans les camps de guerre avait déjà été assez difficile ces derniers temps, sans que les gens le croient fou par-dessus le marché.
Agissez avec honneur, et l'honneur vous aidera.
La vision lui avait dit de faire confiance à sa déesse, mais il ne parviendrait jamais à l'expliquer à Adoline, qui, non content de haïr sa déesse, pensait que les visions étaient des illusions produites par l'esprit de Dalinar. La seule chose à faire consistait à continuer comme avant, et à trouver une manière ou une autre de pousser les hauts princes à collaborer.